Mémoire vive,
présentée par Vincent Lemaire
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Avec nous dans le studio de Mémoire vive aujourd'hui, Claude Nataf, président de la Société d'Histoire des Juifs de Tunisie. Claude Nataf, bonjour.
Bonjour.
Dimanche prochain, le 6 décembre, commémoration de la rafle de Tunis, le 9 décembre 1942. La cérémonie se tiendra au mémorial de la Shoah, commémoration accompagnée de la présentation d'une exposition « Les Juifs de Tunisie sous Vichy et pendant l'occupation allemande ». Une nouvelle occasion, Claude Nataf, de revenir sur un aspect méconnu de l'histoire de la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, tout à fait.
Alors pour découvrir ou redécouvrir cette histoire, Claude Nataf, nous pouvons nous appuyer aujourd'hui sur un témoignage passionnant sous la forme d'un livre qui paraît ces jours-ci, « Six mois sous la botte », l'auteur en est Paul Guèze. Il est publié aux éditions Le Manuscrit dans la collection « Témoignages de la Shoah » en partenariat avec la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Alors vous avez préfacé, vous avez annoté ce livre, Claude Nataf, qui nous permet de suivre jour après jour Paul Guèze pendant l'occupation de la Tunisie par l'armée allemande, de la fin 1942 au mois de mai 1943. Alors, présentez-nous ce personnage, Paul Guèze, Claude Nataf.
Oui, tout d'abord, il ne s'agit pas d'un livre nouveau, mais il s'agit d'une réédition, puisque ce livre avait été édité pour la première fois à Chaux. Dès la libération de la Tunisie, Paul Guèze avait présenté son journal de marche de la période de l'occupation allemande. Et puis, ce livre était tombé dans l'oubli parce que d'autres événements avait retenu l'attention de l'opinion internationale, lorsqu'on a découvert la réalité des crimes nazis en Europe et les 6 millions de morts de la Shoah. Depuis quelques années, les historiens commencent à s'intéresser à cet aspect particulier et mal connu, vous l'avez dit, de la Shoah, qui a consisté à l'occupation d'une partie de l'Afrique du Nord, la Tunisie, et même pas toute la Tunisie, une partie de la Tunisie, par les forces de l'Axe, où partout, comme il l'avait fait partout, même si ce n'est pas en Europe, les Allemands ont persécuté la communauté juive. Alors Paul Guèze était un avocat qui s'était engagé dans l'armée française en 1914, en 1915, il avait à l'époque 17 ans, il venait de passer son baccalauréat, il a fait une guerre mondiale, la première guerre mondiale de façon brillante. Il a été à différentes reprises blessé, cité, décoré de la médaille militaire et de la croix de guerre. Après l'armistice, il a été démobilisé, il a repris ses études de droit, il est devenu avocat et il a très rapidement occupé une place de premier plan au barreau et dans l'ensemble de la communauté juive de Tunisie. Alors ce qui caractérise le personnage, d'abord, c'est que c'est un homme qui est courageux et qui a une admiration sans faille pour la France, la patrie des droits de l'homme, la patrie qui a émancipé les Juifs, et qu'il considère à l'époque comme tout à fait légitime la présence française en Tunisie. On n'est pas encore à l'ère de la décolonisation. La colonisation européenne est un fait acquis qui paraît intangible, et le protectorat français n'est pas remis en cause. Même les nationalistes tunisiens, dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale, réclament plus de liberté, réclament d'être associés aux affaires, mais ne réclament pas la séparation d'avec la France. Le mot indépendance ne sera prononcé que beaucoup plus tard, à l'extrême fin des années 30. Donc Paul Guèze fait partie, on pourrait dire, de l'établissement juif qui revendique un franco-judaïsme dans le sens que les historiens ont donné à ce terme.
Alors, Claude Nataf, quel est le contexte particulier, la situation particulière de la Tunisie et des Juifs en Tunisie entre les deux guerres, donc une situation particulière en Afrique du Nord, puisque la Tunisie est un protectorat à l'époque avec une situation particulière pour les
Alors,
Juifs.
La Tunisie est un protectorat, c'est-à-dire que ce n'est pas la France comme l'Algérie, et que le souverain tunisien, le Bey, continue de régner. Mais si le Bey règne, c'est la France gouverne. Et il est difficile au Bey de s'opposer aux réformes qui sont, aux textes de loi qui sont édictés par la République française, qui est représentée en Tunisie par un résident général de France. Les Juifs de Tunisie, depuis les débuts du protectorat, ont embrassé, il faut le dire, la cause française. Les Juifs de Tunisie se sont précipités en masse vers les établissements d'enseignement français. Ils ont vu dans la présence française un moyen d'acquérir leur émancipation politique et un moyen aussi d'échapper à leurs conditions sociales qui étaient, pour la majorité de la population, une condition sociale marginale. Et on peut dire que le protectorat a bénéficié aux Juifs de Tunisie, puisque grâce à l'instruction répandue par la France, des élites se sont très vite dégagées et ont joué un rôle important dans la régence de Tunis. Pour prendre que l'exemple du barreau, par exemple, il y avait les deux tiers du barreau qui étaient composés de Juifs. Et Xavier Vallat, de sinistre mémoire, le commissaire aux affaires juives de Vichy, désignait le barreau de Tunis comme l'exemple de l'invasion des professions libérales par les Juifs. Les Juifs ont accédé à tous les postes électifs possibles. Les Juifs ont joué un rôle important dans la vie économique, dans la médecine. Il y a eu des grandes découvertes qui ont été faites en Tunisie même, par des médecins juifs. Je pense à Roger Nataf, je pense à André Korkos, je pense à Léon Moiti. Et c'est donc une société juive en mutation, mais qui s'avance de plus en plus, qui a adopté la modernité et qui s'avance de plus en plus vers une assimilation à la population juive française. Mais cette population juive n'a pas bénéficié du décret Crémieux, c'est-à-dire qu'elle n'a pas...
Donc comme en Algérie.
Comme en Algérie, c'est-à-dire qu'elle est demeurée de nationalité tunisienne et que la nationalité française n'a été ouverte qu'à ceux qui s'étaient engagés pendant la guerre de 14, ce qui était le cas de Paul Guéze, ou à ceux qui étaient titulaires d'un diplôme universitaire, le baccalauréat par exemple, à partir de 1923, et qui sollicitaient leur naturalisation française. Et Paul Guéze a fait partie d'un petit groupe d'intellectuels juifs qu'on a appelé le groupe du journal La Justice, qui était parce qu'ils s'exprimaient leur opinion au sein d'un journal qui s'appelait La Justice, qui militait pour la naturalisation française des Juifs de Tunisie, en même temps que pour l'émancipation politique et sociale de la communauté juive de Tunisie.
Il est important de rappeler ce contexte, parce qu'il aura évidemment tout son poids pendant les 6 mois de l'occupation allemande.
Donc Paul Guéze est un notable qui épouse la cause de la France, mais qui en même temps se revendique comme juif et participe de façon active à la vie communautaire, œuvre sociale, etc. En 1939, début de la Seconde Guerre mondiale, Paul Guéze est officier, il est âgé de plus de 40 ans, il n'est pas contraint de partir pour le front métropolitain, mais il s'engage, il demande à partir pour le front métropolitain.
L'homme qui avait fait la Première Guerre mondiale, qui avait combattu à Verdun,
tout à fait. S'engage à nouveau, donc il participe à la campagne de France, il est avec le 62e régiment d'artillerie d'Afrique, là comme officier. Et il a, dans un corps à corps au moment de la retraite, il réussit à faire échapper ses hommes au Stalag. Il est à nouveau cité, décoré, et il rentre en Tunisie auréolé de ce prestige. Et c'est là que les lois raciales, mises en place au début octobre 1940 en France, sont appliquées en Tunisie avec un peu de retard, mais elles retrouvent Paul Guéze en quelque sorte.
Mais est-ce que la situation politique particulière de ce protectorat de la Tunisie par la France fait que ces lois s'appliquent de manière un peu différente ou elles s'appliquent exactement de la même manière?
Non, elles ne s'appliquent pas de la même manière parce qu'il faut, pour qu'un texte français soit appliqué en Tunisie, il faut qu'il y ait un texte spécifique signé par le B. Et le résident général. Bon, le résident général, l'amiral Esteva, est un croyant, c'est un catholique pratiquant, très fidèle au maréchal Pétain, imbu des idées de la Révolution nationale, mais il trouve que les Juifs constituent quand même le peuple de la Bible, et que c'est un peu être anti-chrétien que de persécuter les Juifs. Donc il essaye de mettre en place une législation antisémite, mais une législation antisémite modérée. Autrement dit, les lois raciales qui seront édictées en Tunisie à partir du mois de novembre, fin novembre 1940, seront plus douces que les lois raciales métropolitaines, un peu plus douces. Et Paul Guéze est dispensé, il est l'un des deux personnes de la commune, des deux personnes de la communauté qui, par décret spéciaux, sont dispensés de toute application du statut en raison de ses titres militaires et de ses activités civiques. Dans un premier temps, il refuse cette marque de distinction qui le sépare de ses coreligionnaires. Ce sont les dirigeants de la communauté qui lui demandent d'accepter, pensant que si l'un d'entre eux était libéré des entraves du statut, il pourrait rendre davantage de services à la collectivité. Et Paul Guèze est membre du Conseil de la Communauté. Nous avons oublié de le dire, il est membre du Conseil de la Communauté. Novembre 1942, les Alliés débarquent en Algérie et au Maroc, mais laissent de côté la Tunisie parce qu'ils craignent les défenses des troupes françaises de Bizerte, et ils pensent qu'il est préférable pour eux d'aborder la Tunisie par terre. Mais Hitler, qui veut couper la route aux Anglo-Saxons, fait occuper immédiatement la Tunisie par des troupes germano-italiennes. Une bataille s'installe sur le sol tunisien entre les forces anglo-saxonnes, les forces alliées qui viennent d'Algérie, et les forces de l'Axe qui sont en Tunisie. Les Allemands, normalement, auraient dû se concentrer sur la bataille. Or, comme ils sont animés d'une idéologie raciste et d'une volonté d'éliminer les Juifs de toute la surface de la Terre, ils commencent à s'en prendre spécifiquement à la communauté juive de Tunisie. Et
dès les premiers jours, dès leur arrivée, dès novembre 1940.
8 jours après leur arrivée, ils arrêtent le président de la communauté, Moïse Borgel, son prédécesseur, Félix Sabama, et d'autres personnalités juives. Et puis le 8 décembre, ils intiment au grand rabbin et au président de la communauté l'ordre de leur présenter le lendemain 3000 jeunes gens équipés de pelles et de pioches et destinés à être internés dans des camps de travail au service de l'armée allemande. Bien entendu, la communauté ne peut pas satisfaire cette obligation. La communauté est un organisme de culte et de bienfaisance. Elle n'a aucun moyen de contraindre les jeunes gens juifs à se rendre dans des camps de travail. Et le lendemain, les SS procèdent à une rafle en raison de l'abstention de la communauté, procèdent à une rafle aux alentours de la Grande Synagogue et aux alentours de l'école de l'Alliance israélite à Tunis. Alors c'est une scène tragique, parce que les SS pénètrent dans la synagogue, ils détruisent les objets sacrés, ils profanent les sifrei Torah, ils battent tous les gens qui sont à la synagogue pour la prière du matin, ils arrêtent aux alentours de la synagogue tous les juifs qui passent, ils sont renseignés par quelques voyous arabes qui sont là, et ils font la même chose aux abords de l'école de l'Alliance israélite rue Maltasrira. Et à ce moment-là, le président de la communauté, Paul Guèze, se rendent devant la grande synagogue. Et ils voient le spectacle du colonel Rauf. Alors, le colonel Rauf, je pense qu'il faut signaler qui il est. Le colonel Rauf, c'est lui qui a inventé les camions à gaz mobiles. Vous savez, ces camions dans lesquels, en Russie et en Pologne, on enfermait des juifs et on lâchait les gaz de façon à exterminer tous les malheureux occupants. C'était avant l'invention des chambres à gaz. C'était des chambres à gaz mobiles. Et le colonel Rauf, c'est lui qui sévit en Tunisie contre la population juive. Alors il est déchaîné, Paul Guèze voit ce spectacle affreux, les enfants en pleurs, les vieillards avec la mitraillette sur le ventre. Il essaye de parlementer, le colonel Rauf donne un coup de cravache, Paul Guèze s'insurge, je suis un ancien combattant, j'ai fait prisonnier des Allemands à Verdun, je les ai bien traités. Vous êtes les vainqueurs, mais vous n'avez pas le droit de nous humilier. Donc il leur tient un langage de chef qui surprend. Comment un juif peut-il, qui surprend le SS, comment un juif peut-il me tenir ce langage? Et puis, Verdun, c'est mythique pour les Allemands. C'est à Verdun que leurs pères, en 1914, 1917, se sont fait battre par les Français. Alors il dit, mais qui êtes-vous? Et Paul Guèze, à ce moment-là, lui dit, je suis officier de l'armée française. Je suis membre du Conseil de la Communauté, je prends la responsabilité de tous mes coreligionnaires, mais arrêtez cette rafle, arrêtez cette... Alors, le colonel, il y a une discussion très dure, le colonel Raff refuse, bien entendu, d'arrêter la rafle, mais il dit, recommencez à organisez-vous pour recruter, et après, j'arrêterai la rafle. Alors, c'est la journée du 9 décembre. Cette journée où des jeunes gens, des moins jeunes, ont été raflés dans la rue, et où 100 personnalités de la communauté ont été arrêtées, internées à la prison militaire de Tunis, destinées à être fusillées en cas de sabotage, alors ce que les Allemands appelaient sabotage, et le refus de la population juive d'obéir aux ordres allemands.
Alors là, on suit pas à pas donc Paul Guéze grâce à ce journal de marche hein, de l'année 1942 et l'année 1943, publié, republié une nouvelle fois aujourd'hui, intitulé « Six mois sous la botte » que vous avez donc préfacé et annoté, Claude Nataf. Et cette figure qu'on a présentée tout à l'heure de Paul Guéze atteint là une nouvelle dimension puisqu'il se retrouve, pour le bien de la communauté, en première ligne. Il se désigne lui-même interlocuteur des officiers allemands, donc pour les six mois qui vont s'ouvrir, qui sont les six mois de l'occupation de la Tunisie par l'armée allemande.
Oui, tout à fait. Alors, je pourrais en revenir au livre. Ce qui fait la différence de cette édition par rapport à celle de 1943, en 1943, c'était le journal de Paul Guéze, son journal de marche. Nous avons voulu, enfin la Fondation pour la mémoire de la Shoah, et Serge Larsfeld également, a voulu présenter ce témoignage, mais resitué dans un ensemble qui s'appelle la Shoah. C'est pourquoi nous avons éclairé le livre de Paul Guéze avec des documents d'archives qui n'étaient pas connus en 1943, qui montrent bien le dessin allemand, et on a explicité, à l'attention des lecteurs qui ne connaissent pas la communauté de Tunis, on a explicité le récit de Paul Guéze par des notes que j'ai voulu aussi complète que possible. Ce n'est pas toujours complet, mais le lecteur pourra trouver beaucoup de renseignements dans ses notes. Alors oui, effectivement, c'est le journal de marche d'un homme qui montre ses tourments, ses angoisses, parce qu'il sait que à tout moment, ça peut basculer, et que des jeunes juifs qui sont dans les camps d'internement, et les otages, qui sont des hommes âgés de 50 à 70 ans, peuvent être fusillés, et il sait quelle est l'affreuse responsabilité qui pèse sur ses épaules. Et il définit immédiatement sa tactique, ne jamais donner le spectacle d'un juif qui a peur. Alors ce qui est particulier, Paul Guéze, officier de réserve de l'armée française, retrouve un texte du gouvernement de Vichy qui permettait aux officiers de réserve de conserver leur uniforme et de porter leur uniforme pendant toute la durée de la guerre, tant que la guerre ne serait pas terminée. Vichy avait voulu donner cette consolation à des officiers qui avaient été démobilisés. Et Paul Guéze, juif, mais dispensé des entraves du statut, utilise ce texte pour porter l'uniforme d'officier pendant toute la durée de l'occupation allemande. Et lorsqu'il se présente pour aller à la commandant tour, où il y a un soldat allemand qui monte la garde, il le regarde d'un regard dur d'officier et lui dit alors on ne salue plus, montrant ses galons, et le soldat, le factionnaire, lui présente les armes. Et un jour, il y a un factionnaire qui refuse de lui présenter les armes. Et Paul Guéze dit alors on ne salue plus les officiers. Un sous-officier est présent, le factionnaire se tourne vers le sous-officier et dit c'est un juif. Et alors le sous-officier répond « Oui, mais c'est un officier ». Et aussitôt, le factionnaire allemand présente les armes. Alors c'est ce spectacle de cet homme sur lequel pèse tout le poids de la communauté juive de Tunisie, qui porte l'uniforme français, revêtu de l'étoile jaune, parce qu'il met l'étoile jaune, et il force les factionnaires allemands à lui présenter les armes.
Mais alors, on va le suivre à travers son journal, dans ses affres, parce que sa tâche est une immense responsabilité, mais qui le place face à des choix moraux très lourds. Il donc s'occupe plus particulièrement du recrutement forcé des travailleurs juifs, à la demande des Allemands, des centaines, très vite, des milliers de jeunes hommes.
5 500 en tout.
C'est une tâche évidemment très complexe, le recrutement, le soutien, le ravitaillement, il réunit l'argent pour les rançons, il obtient la libération de certains otages malades ou pour des raisons de famille. C'est une tâche harassante et qui va parfois le placer, lui, Paul Guéze, en porte-à-faux vis-à-vis de la communauté.
Oui, alors d'abord, le rôle de Paul Guéze est immense, mais il n'est pas seul. Il y a un président de la communauté, Moïse Borgel, qui est un homme âgé, mais qui n'a pas déserté, qui est resté en place malgré toutes les pressions dont il a été l'objet de la part de personnalités chrétiennes et musulmanes pour qu'il se cache, il est resté en place. Le conseil de la communauté, les membres du conseil de la communauté ne se sont pas dérobés. Et vous avez dans le journal, dans le livre, nous avons publié une photo retrouvée par hasard par les forces françaises en Allemagne, où on voit les dirigeants de la communauté qui sont obligés de recevoir les SS debout, et les SS sont avec la mitraillette, leur mettent la mitraillette sur le ventre. Mais les dirigeants de la communauté ne se sont pas dérobés. Donc Paul Guest n'est pas seul. Mais c'est vrai que c'est lui qui a la plus lourde responsabilité. Il est soumis à des angoisses, parce que, comme vous l'avez dit, il y a 5500 jeunes gens qui sont dans des camps de travail. Et il y a des morts. Parce que
les combats font rage très vite entre les forces alliées et les
d'abord,
l'armée
parce qu'il y a, alors il y a des morts dans le cadre de combats, puisque ces Juifs sont sous la ligne du front. Mais il y a des morts aussi parce qu'il y a des sévices qui sont exercés par les Allemands. Les Allemands mènent les Juifs dans les camps à la cravache, à coups de cravache. Il y en a qui meurent faute de traitement, faute de soins. Il y en a qui meurent sous les coups. Et il y en a qui sont fusillés par les Allemands. Parce que, pour un petit acte d'indiscipline, les Allemands avaient la gâchette facile. Où il y a un malheureux, le 9 décembre au soir, un jeune homme qui avait été raflé, Mazouz, qui portait un appareil orthopédique, qui ne pouvait pas avancer, ses camarades l'ont porté, puis lorsque ses camarades n'ont pas pu le porter, ils l'ont déposé à terre, et le sous-officier allemand a tiré 2 coups de revolver et l'a tué. Bon. Donc Paul Guest avait cette angoisse de penser qu'un de ses gestes, un de ses mots, pouvait entraîner des sévices et des pertes humaines. Bon. Et d'ailleurs, nous avons découvert très récemment dans les archives italiennes la preuve que l'intention des Allemands, s'ils avaient réussi à percer le front allié vers l'Algérie, était de fusiller tous les jeunes juifs qui se trouvaient dans les camps. Le général italien le dit, c'était l'intention des Allemands. Bon. Donc, c'était une communauté qui était en danger et qu'il portait sur lui. Alors, impératif moraux. Oui, on a mobilisé toute la population, tous les jeunes juifs de Tunisie, de Tunis, puisque Paul Guest ne s'occupait que de Tunis. On a mobilisé tous les jeunes juifs de 17 à 40 ans. Il y en a qui ont pu échapper en se cachant chez des amis chrétiens, chez des amis musulmans. Et il est évident que ceux qui avaient le plus de facilité pour se cacher étaient les bourgeois. Bon. D'où des accusations de favoritisme. Et Paul Guest, lui, est intransigeant. Il dit « Tout le monde doit y aller, je fais traquer ceux qui se cachent, ceux qui refusent d'obéir. » Alors que d'autres dirigeants communautaires disaient « Un homme qui échappe, c'est un homme qui est sauvé, essayons de le couvrir, et puis moins il y en a dans les camps, et ben mieux cela vaut. » Donc, c'est une situation dramatique. En même temps, Paul Guest est dans son livre... Lorsqu'il va au camp de Bizerte et qu'il voit que les travailleurs juifs sabotent l'effort de guerre allemand en faisant tomber dans le port des caisses de munitions, en perçant des fûts d'essence, bon, ce qui est très grave au péril de leur vie, Paul Guest ne leur dit pas « ne le faites pas », il leur dit « bon, continuez, mais faites attention, ne vous faites pas prendre, prenez garde à vous ». Donc il y a en même temps aussi dans les camps une résistance qui se fait au vu et au su de la communauté. Et Paul Guest organise, enfin ce n'est pas lui, mais c'est un de ses adjoints, Henri Sfez, qui organise des filières d'évasion, au vu et sur les instructions du président de la communauté.
Mais alors face à cette tâche impossible, Claude Nataf, Paul Guest utilise une expression qui revient très souvent dans ce journal de marche republié aujourd'hui. Il se qualifie lui-même de Don Quichotte.
Oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que Paul Guest a été, pas volontaire, mais lorsqu'il a vu la rafle, il s'est présenté en disant « Je prends la responsabilité ». Et il dit « C'est un acte de Don Quichotte ».
Alors, Claude Nataf, pour terminer cette émission, il ne nous reste que quelques secondes. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots le séminaire que vous organisez les lundis 7 et mardi 8 décembre, séminaire intitulé « Les Juifs d'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale ». Un séminaire donc d'histoire comparée.
Oui, alors avant, je voudrais très rapidement dire que le 6 décembre a lieu, comme chaque année, la cérémonie commémorative à la mémoire des Juifs de Tunisie déportés, puisqu'il y a eu quand même 43 déportations. Les déportations ont commencé le 13 avril 1943 par avion. Ce sont les seuls déportés au monde qui ont été déportés par avion. Mais heureusement, la libération a eu lieu 3 semaines plus tard, ce qui fait que les déportations se sont vite arrêtées. Il n'y a eu qu'un convoi aérien. et puis les morts dans les camps, qui sont quand même nombreux, et la commémoration aura lieu le 6 décembre à 10h45 au mémorial de la Shoah, en présence du maire de Paris, des ambassadeurs de Tunisie et d'Israël et de différentes autorités. Ensuite, il y aura à partir du 6 après-midi, au centre communautaire de Paris, 119 rue Lafayette, une exposition de documents, d'archives et de photographies sur les Juifs de Tunisie durant la Seconde Guerre mondiale, sous Vichy et sous l'occupation allemande, et notamment des documents allemands que nous avons retrouvés très récemment dans les archives. C'est une exposition qui va durer jusqu'au 16 décembre, donc pendant près de 10 jours, elle est visitable, tous les jours ouvrables, sauf le samedi bien entendu. Et le dimanche, elle peut être visitée. Et puis nous organisons alors pour la première fois un séminaire d'historiens spécifiquement consacré à la vie des Juifs d'Afrique du Nord durant la Seconde Guerre mondiale. Et nous faisons venir à ce séminaire des historiens maghrébins, tunisiens, algériens, marocains, israéliens, italiens et français. C'est un séminaire de recherche, c'est-à-dire que c'est un séminaire qui n'est pas ouvert au grand public, qui est ouvert à des étudiants, à des chercheurs, à des historiens, à des témoins et à quelques personnes spécifiquement intéressées. Pour le grand public, c'est l'exposition. Mais nous voulons, dans le cadre de ce séminaire, faire émerger une problématique nouvelle, parce qu'on connaît l'histoire de la Shoah en Europe, on ne sait pas ce qui s'est passé en Afrique du Nord, alors que les Juifs d'Afrique du Nord étaient compris dans les statistiques de la conférence de Wannsee. Comment ont-ils échappé? Pourquoi? Quel a été le jeu des puissances? Le rôle de l'Italie, le rôle de Vichy, le rôle de l'Allemagne, et nous aurons un universitaire israélien qui nous parlera pour la première fois des documents retrouvés dans les archives allemandes sur les Juifs d'Afrique du Nord.
Nouvelles perspectives historiques, donc bien intéressantes. Nous en ferons l'écho ici dans Mémoire Vive. Claude Nataf, je rappelle que vous êtes président de la Société d'Histoire des Juifs de Tunisie. Je vous remercie, c'était Mémoire Vive, une émission proposée par la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Vous pouvez retrouver Mémoire Vive sur le site de RCJ, www.radio-rcj.info, sur le site de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, www.fondationshoah.org, et enfin sur le site qui rassemble toutes nos émissions en archives, www.mémoirevive.net.